Nous allons commencer par la prière. Seigneur notre Dieu, comme d'habitude, tu as parlé à ton Église, à cette petite communauté, à travers les échanges et à travers les épreuves aussi. Tu nous montres que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu nous montres que seulement par toi nous pouvons rentrer dans la présence du Père. Tu nous as montré que la véritable vie ne réside qu'en toi. Merci pour cette œuvre extraordinaire. Quel sacrifice! Nous sommes incapables de le faire. Mais dans ton amour, tu as payé le prix à notre place. Et en payant le prix, tu nous as portés en toi, avec toi. Nous pardonnons, brisant les chaînes du péché. Mais tu nous as ressuscités avec toi. Tu es devenu espérance pour nous, en sorte qu'en nous quittant cette terre, peut-être c'est la fin de quelque chose de passager, mais le début de quelque chose d'éternel. Je remets entre tes mains tous ces mots que nous allons partager ensemble, que tu puisses leur donner plus de sens par ton esprit pour chacun de nous, qu'on puisse recevoir ce que tu as envie qu'on reçoive dans notre cœur. En ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout d'abord, merci pour vos messages de consolation, de réconfort. Et hier, j'ai reçu une photo de mon frère qui m'a envoyé une photo très parlante. On n'a pas besoin de paroles. Je l'ai montré d'ailleurs à la maison. Et on voit ma mère levant les mains, habillée en blanc. Et à ses pieds, on voit une tombe avec un numéro sur la tombe. Et c'est quel contraste! Voilà un père que nous avons connu. Il est parti, il a plus de 80 ans, une fin dans une tombe. Il est où aujourd'hui? Je n'en sais rien. Mais je veux que je garde l'espérance dans mon cœur qu'à travers les épreuves qu'il a vécues durant ces mois de souffrance dont j'ai assisté à ces souffrances, je les ai relatées devant vous, c'est que cette espérance me fait dire que le Seigneur certainement s'est présenté à lui dans son intimité. Et j'espère que le jour où j'irai là-haut, je le retrouve, que je sois étonné, dans le bon sens du terme. Et en même temps, on voit cette maman, cette mère qui lève les yeux vers le ciel pour nous dire que la vie continue. C'est quelque chose qui est très parlant parce que en me réveillant ce matin, et j'en ai parlé à Viviane, ça montre nos limites. Souvent, on croit qu'on est éternel. Ça peut arriver à tout moment. À tout moment. Mais on sait que en tenant bon, on rejoint le Seigneur dans l'éternité. Merci pour vos prières, merci pour votre soutien. C'est vrai que mon frère est parti là-bas le jour même du décès de mon père. Et il a accompagné la famille et il est rentré vendredi. Voilà. Et il m'a tenu au courant. Et il m'a représenté là-bas. Et j'irai voir ma mère, ma famille, peut-être au printemps d'ici là, quand les choses seront calmées. Voilà. En tout cas, il y a une porte qui est ouverte. Et j'irai rencontrer ma famille, et ils savent que nous sommes chrétiens. Et le Seigneur continue à œuvrer. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble le passage dans Marc chapitre 9, versets 30 à 50. C'est la continuité de notre évangile. Nous continuons à le méditer. Et dans mon développement que je présentais devant vous, je ne vais pas lire tous les passages. Tous les passages qui relatent un peu le développement. Je déposerai le texte sur le site. Je verrai avec Radman si on peut déposer le texte avec toutes les références qui viennent appuyer mes propos. C'est un texte long. Et quand j'ai commencé à le méditer, quand je lisais au début, le sens m'a amené jusqu'à la fin du chapitre. Et en lisant le tout, c'est là qu'il y a un sens qui m'a paru essentiel, important, parlant, que je veux partager avec vous, et qui confirme tous les messages que l'Église reçoit depuis, on va dire, des années. C'est-à-dire, et depuis dimanche dernier, dimanche où Jean-Marie était là, qui confirme encore ce que j'ai toujours cru dans mon cœur, c'est que la foi chrétienne est un cheminement. On peut commencer et mal finir. L'essentiel, c'est d'y arriver. Et souvent, on n'annonce pas, on ne prêche pas ce message-là pour responsabiliser les chrétiens. On leur dit qu'au début, tout est fait. Et honnêtement, quand on regarde notre vie, notre témoignage tous les jours, on peut se mentir entre nous. Mais quand on est seul devant Dieu, on peut faire le bilan avec lui. Et on peut lui dire, est-ce que ma vie est conforme à ce que je lis? On peut nous mentir à nous. On peut mentir à soi, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Et ce passage vient confirmer encore ce que j'ai toujours cru, pensé. C'est qu'on peut commencer et mal finir. Il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Est-ce qu'on fera partie des vainqueurs ou est-ce qu'on va se contenter d'une vie chrétienne misérable, dans les apparences, plaire à l'autre, se mentir à l'autre, alors qu'il y a d'autres choses qui se passent dans le cœur. Juste l'histoire, le voyage est un message en lui-même. Jésus qui part avec ses disciples de la Galilée, qui va où? Vers Jérusalem, il traverse quoi? Capharnaüm. C'est-à-dire on peut commencer par la Galilée et rester dans le désordre, Capharnaüm, sans arriver à Jérusalem où il y a la croix. Juste ça, ça résume tout ce que nous avons lu. Et c'était le fil conducteur que j'ai reçu dans mon cœur et j'ai envie de parler avec vous. C'est-à-dire juste le voyage, parce que le Seigneur, vous savez, dans la Bible, un mot a un sens avec le Seigneur, une virgule a un sens. Les faits, les gestes, les paroles du Seigneur est un message spirituel qui s'adresse à notre cœur, à notre esprit. Eh bien, la Galilée, on peut commencer à la Galilée et rester. On peut marcher avec le Seigneur, les disciples étaient avec le Seigneur, et rester dans Capharnaüm, vous savez, Capharnaüm, c'est le désordre. On peut même faire en sorte de dire au Seigneur, non, on ne va pas à Jérusalem, restons ici. On ne veut pas la croix. Alors que le Seigneur est venu pour nous emmener jusqu'à Jérusalem, jusqu'à la croix. Dans ce passage, Marc 9, versets 30 à 50, Jésus-Christ traverse la Galilée avec ses disciples et leur annonce qu'il va être livré, mis à mort, puis ressuscité. Les disciples ne comprennent pas cette parole et n'osent pas l'interroger. Arrivé à Capharnaüm, dans le désordre de notre vie, dans notre cœur, Jésus les questionne sur ce dont ils discutaient en chemin. Et dans ce désordre, qu'est-ce qui se passe? Mais ils ont les soucis de la vie, les soucis du monde. Qui sera le premier? Aucun ne pense aller à la croix, la crucifixion, non. Qui sera le premier? Qui m'acceptera comme je suis? Qui m'aime? Pourquoi on me rejette? Ah oui, on revient toujours à soi. Jésus les questionne ce dont ils discutaient en chemin. Ils gardent le silence. Car ils se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Jésus s'assoit, appelle les 12 à Capharnaüm et leur enseigne que celui qui veut être le premier doit être le dernier et le serviteur de tous. Il place un enfant au milieu d'eux et déclare que l'accueillir en son nom revient à l'accueillir lui-même et à accueillir celui qui l'a envoyé. Jean intervient alors pour dire qu'ils ont empêché un homme de chasser des démons au nom de Jésus. Oh, ils ont le savoir. Ils ont la théologie, ils savent ce qui est vrai. Nous, on décide qui doit parler, qui ne doit pas parler. Ceux dehors, non, c'est nous qui décidons. Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Jésus répond qu'il ne faut pas l'en empêcher, car celui qui n'est pas contre eux est pour eux. Jésus poursuit en avertissant qu'entre le fait de faire tomber un des petits qui croient en lui, utilisant des images fortes pour souligner la gravité du scandale. Il évoque ensuite, de manière imagée, la nécessité d'écarter ce qui conduit au péché. Oui, il est question de dénoncer le péché. Enfin, il parle du sel, de sa valeur et de la nécessité pour les disciples d'avoir du sel en eux-mêmes et de vivre en paix les uns avec les autres. Le passage de la Galilée vers Jérusalem n'est pas seulement un déplacement géographique dans l'Évangile. C'est un message spirituel pour l'Église. Il décrit surtout un cheminement spirituel de tout chrétien. Ce n'est pas une option, c'est le cheminement spirituel de tout chrétien. Il représente le passage de l'appel de Dieu à la nouvelle naissance. En Galilée, le Seigneur a appelé ses disciples. Mais ils ne sont pas restés en Galilée. Il est venu pour les amener à Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il y a à Jérusalem? La croix. Le passage de la Galilée représente un début. Il décrit surtout un cheminement spirituel, tout ce voyage. Il représente le passage de l'appel de Dieu à la nouvelle naissance. Souvent, on croit en Galilée, c'est né. Non, mes frères et sœurs. Le Seigneur les a appelés pour les amener à une véritable nouvelle naissance. Elle ne peut se faire qu'en passant par la croix. Et si vous croyez que vous êtes déjà né de nouveau sans passer par la croix, c'est un mensonge. La nouvelle naissance, c'est une nouvelle nature. La nouvelle nature, c'est une vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est des fruits. Est-ce que nous les portons? Oui ou non? Le Seigneur aime l'honnêteté. Si ce n'est pas le cas, des fois, on est appelé à se mettre à genoux devant le Seigneur. Ça représente le passage d'une vie conduite par la chair à une vie conduite par l'esprit. La vie chrétienne est ainsi un chemin qui s'accomplit à travers la croix et plusieurs fois dans notre marche avec le Seigneur. La Galilée symbolise le début de la foi. Et combien de nous, mes frères et sœurs, on reste dans ce début de la foi et on croit qu'on est déjà arrivé? C'est là que l'on découvre, ce début de la foi, on découvre Jésus-Christ, que l'on commence à le suivre avec joie et enthousiasme. Et c'est normal. Cette foi est sincère, c'est vrai. Mais elle demeure fragile. Elle reste marquée par l'homme ancien. C'est normal qu'on débute comme ça. On commence par les peurs, les désirs personnels, la recherche de reconnaissance au sein même de l'Église, par les compromis. On commence comme ça. C'est normal. Dieu accepte ce point de départ. Et c'est normal. Car il vient à la rencontre de chacun tel qu'il est dans sa réalité quotidienne. Mais ce qui n'est pas normal, c'est d'y rester. La Galilée n'est pas une destination. Elle est un point de départ. C'est l'appel. Rester à ce stade expose au risque de stagnation spirituelle. C'est pourquoi Jésus conduit ses disciples vers Jérusalem. Sur un chemin plus profond et plus exigeant. Attention, il est question de mort. Sur le plan spirituel, Jérusalem représente l'accomplissement. C'est à Jérusalem qu'il y a le temple. C'est à Jérusalem qu'est la maison de Dieu. C'est à Jérusalem qu'on rencontre Dieu. C'est à Jérusalem qu'il y a la croix. C'est là que Jésus donne sa vie. Il ne l'a pas donnée en Galilée. Il ne l'a pas donnée à Capernaum. Il l'a donnée à Jérusalem. C'est là que Jésus donne sa vie, porte le péché du monde et ouvre par la croix et la résurrection le chemin de la réconciliation avec Dieu. Jérusalem représente la maturité de la foi. Et nous sommes appelés à la maturité, ne pas rester des bébés spirituels. C'est là où l'homme ancien meurt pour laisser place à l'homme nouveau, conduit par l'esprit. Oui, nous sommes appelés à vivre une vie chrétienne conduite par l'esprit. Ce passage marque un changement profond. On passe de l'enthousiasme du départ à la fidélité. De la religion extérieure à une relation vivante avec Dieu. De la recherche de soi, il y a une des insatisfactions intérieures à l'abandon confiant en Christ. La nouvelle naissance n'est pas une émotion passagère, mais l'aboutissement d'un chemin où l'on accepte de mourir avec le Christ pour vivre par l'Esprit. La vie chrétienne est un processus, mes frères et sœurs. Est un processus qui peut durer des mois, des années, tout dépend à quel moment Dieu nous appelle à lui. Tant qu'on est dans ce corps, c'est un processus de transformation parce que Dieu nous prépare pour aller à sa rencontre. Elle commence par l'appel et tous, et je l'espère, nous avons reçu cet appel dans notre cœur et nous y avons répondu favorablement. Mais c'est le début qui mène vers la croix. Elle commence par l'appel, se développe à travers des épreuves et on a parlé beaucoup d'épreuves ce matin. Et s'accomplit lorsque la croix est pleinement acceptée. Notre chair cherchera toujours à contourner la croix. Mais tant qu'on n'est pas passé par la croix au niveau spirituel, nous resterons des enfants charnels. Ce chemin peut être difficile, et il sera difficile. Mais il est libérateur, parce qu'il ouvre la porte de l'éternité. Il n'y a pas de vie chrétienne authentique sans la croix. Dans ma propre religion d'enfance, on a tout fait pour effacer la croix. Alors comment vous pouvez imaginer que dans le milieu chrétien, on veut effacer la croix? Quel changement pour moi si j'arrive dans une foi, on efface la croix? J'aurais dû rester dans ma religion. La croix, elle est indispensable et c'est au niveau spirituel que je parle. La croix, c'est le lieu où l'ego est déposé, où Dieu devient le centre de la vie. Tant que cette étape n'est pas vécue intérieurement, mes frères et sœurs, la foi peut rester centrée sur soi. Avec des apparences, on va être satisfait, autour de nous sont contents. Mais elle ne produit pas de fruits. Mais lorsque la croix est acceptée, le Christ prend la place centrale, alors les fruits de l'esprit deviennent visibles dans la vie quotidienne. Alors les fruits qu'on lit dans Galates deviendront tout naturellement regardés autour de nous, ils verront ces fruits. Nous n'aurons plus besoin de nous efforcer pour avoir des fruits. Les fruits deviendront des conséquences naturelles. La sanctification devient réelle. Et la Bible rappelle clairement, et ça il faut le rappeler sans cesse mes frères et sœurs, la Bible nous rappelle clairement que sans la sanctification, personne ne verra Dieu, même si nous avons chrétiens sur le front. Il suffit de lire Hébreux chapitre 12, verset 14. Sans la sanctification, c'est-à-dire la vie dans l'esprit, avec les fruits qui vont avec, personne ne verra Dieu. Ainsi, la vie chrétienne est une route. Appelée en Galilée, éprouvée en chemin dans notre Capharnaüm, crucifiée à Jérusalem, et vivifiée par l'esprit jusqu'à la communion éternelle avec Dieu, c'est-à-dire cette éternité qui commence dans notre cœur, elle continue quand on aura quitté notre terre, et c'est l'image qui m'est revenue quand j'ai vu la photo, l'image de la tombe de mon père. C'est sur la base spirituelle de ce message, de ce voyage que le Seigneur nous montre, c'est-à-dire le passage de la Galilée vers Jérusalem, que les versets suivants, c'est-à-dire du verset 32 à 50, prennent tout leur sens. Toute la suite a du sens là-dessus. Quand on a réalisé cela, on comprend maintenant la suite. Ce passage n'est pas une simple succession d'enseignements moraux, mais révèle le cheminement intérieur que Jésus propose à ses disciples. Il vient de leur annoncer sa passion, c'est-à-dire le prix à payer qui va à la croix, vers laquelle il marche résolument. Il ne fait pas demi-tour, il leur dit « c'est vers là-bas qu'on y va ». Tandis que les disciples, eux, qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas encore arrivés à Jérusalem intérieurement. Intérieurement, ils sont en Galilée, Capernaum. Ils ne pensent pas à Jérusalem. Pour eux, la croix, non, c'est trop de sacrifices. Ça me suffit, ma religiosité, mes apparences, mon dimanche par semaine, le reste. Et quand je pêche, je demande pardon. Et je recommence le lendemain. Bon, on me l'a dit. Non, mes frères et sœurs, c'est pas comme ça que ça se passe. Leur discussion sur qui est le plus grand révèle qu'ils sont encore gouvernés par l'ego. Eh oui. La comparaison et la recherche de reconnaissance. Eh oui, on peut le dire même chez nous. Je veux qu'on m'accepte, je veux quand même. Vous voyez, il faut qu'il y ait une reconnaissance que je n'ai pas dans la société, je veux la rechercher dans la famille, que je n'ai pas, je la cherche dans l'église. Oui, je suis le centre de tout cela. Ils suivent Jésus-Christ, mais selon une logique charnelle, alors que Jésus les conduit vers une vie selon l'esprit. Ce décalage met en lumière une vérité fondamentale. Et c'est ça qui m'a interpellé encore une fois en lisant ce passage. Et c'est très alertant, très alarmant. Je me le dis à moi-même, parce qu'il est question d'éternité. Vous ne me sauverez pas, je ne vous sauverai pas. Il n'y a que le Seigneur et notre marche avec lui. On peut marcher, écoutez bien, on peut marcher comme les disciples avec le Seigneur sans arriver à Jérusalem. C'est-à-dire, on peut être chrétien, oui, d'apparence, de tradition, d'habitude, sans passer par la crucifixion de la croix au niveau spirituel. C'est dans ce cadre que Jésus appelle ses disciples à une transformation profonde. Il leur parle d'humilité, de l'accueil des plus petits, du refus de faire tomber les autres et d'un combat sans compromis contre le péché. Ces paroles n'ont de sens que s'ils l'ont compris, s'ils ont compris que le chemin vers Jérusalem est un chemin étroit, est un chemin de mort à soi-même. Renoncer à la grandeur, à la reconnaissance humaine, accepter d'être le dernier, accueillir celui qui n'a aucun statut, couper ce qui conduit au péché. Autant d'étapes concrètes qui marquent le passage de l'appel à la véritable nouvelle naissance. Marc 9, surtout à partir du verset 32 à 50, décrit ainsi ce qui doit mourir pour que la vie de l'esprit jaillisse. Jésus ne propose pas une morale exigeante, fondée sur l'effort humain, mais un cheminement de transformation intérieure. Tant que l'homme ancien dirige, la vie de Dieu ne peut s'épanouir pleinement. Mais lorsque la croix est acceptée, lorsque l'ego est désaxé, une vie devient possible, une vie de paix,
de liberté intérieure et de fécondité spirituelle avec beaucoup de fruits spirituels. Si nous nous posons la question aujourd'hui, mes frères et sœurs, pourquoi les églises sont aussi pauvres? Parce que la croix n'est pas au centre. Parce qu'il y a encore l'ego. Parce qu'encore il y a l'homme qui est au centre. Parce que la croix n'a pas fait son œuvre en nous, et je parle au niveau spirituel. Plus précisément, Jésus met en lumière plusieurs résistances profondes qui doivent être crucifiées. Oui, des résistances doivent être crucifiées. Lesquelles? Il révèle d'abord l'ignorance volontaire de la croix. Volontairement, on veut effacer la croix du moment qu'elle nous coûte. Donc on l'habille par nos théologies, tout ce que vous voulez, et on avance dans une vie chrétienne misérable. Les disciples ne comprennent pas l'annonce de la passion au point qu'ils n'osent même pas le questionner. Ah non, c'est trop, non, parlons pas de ça, parlons d'autre chose. Qu'est-ce qui doit mourir là? Doit mourir le refus d'affronter la vérité de la mort à soi-même. Il annonce ensuite la quête de reconnaissance et de grandeur où l'ego cherche à se manifester, se comparer et à s'imposer. Jésus leur dit, seulement celui qui accepte d'être le serviteur peut entrer dans la logique de l'esprit. Jésus met également en cause le besoin de contrôle spirituel. Oh là là, tellement de dénominations, tellement de courants. Et on a tous raison. Et j'ai interdit aux autres d'aller là-bas. Non, venez ici. Oui, et Jean d'Arès l'a évoqué encore tout à l'heure. C'est l'homme qui crée les barrières. Alors que le Seigneur unit. On est déjà unis en lui. Lorsque les disciples veulent empêcher quelqu'un d'agir dehors du groupe, l'esprit ne se laisse pas enfermer dans des cadres humains, mes frères et sœurs. Jésus avertit encore contre le scandale de l'indifférence envers les petits, soulignant la gravité d'une foi qui blesse et détourne les plus fragiles. Enfin, il appelle à une rupture radicale avec les attachements au péché. Peut-être, mes frères et sœurs, nous tolérons trop le péché. Je dirais même mieux. Peut-être on a même fractionné le péché, grand péché, petit péché, moyen péché, au point d'accepter les petits détails. Le Seigneur est clair. Il dénonce le péché sans mesure, sans graduation. Il faut qu'on ait, non seulement honte, mais détester le péché. Il est même question de haïr le péché. Et ça, je pense, c'est une maladie qu'on trouve dans les églises aujourd'hui, c'est qu'on minimise. Pourquoi on la couvre par le pardon? Mais frères et sœurs, si tu pèches, Dieu te pardonne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Avant même de pécher, je sais que Dieu me pardonne. Alors pourquoi je ne pécherai pas? Puisque Dieu pardonne. La vie chrétienne nous appelle à porter notre croix, c'est-à-dire à mourir à notre ego, à nos susceptibilités, à la recherche de reconnaissance et à la grandeur humaine. Elle nous appelle aussi à renoncer au compromis, à la superficialité, à tout ce qu'on peut considérer comme détail. Ce passage par la croix, symbolisé par Jérusalem, est indispensable pour tout chrétien. Sans ce passage et sans cette mort à soi-même, on peut marcher longtemps avec le Seigneur sans jamais vivre réellement par l'Esprit. On peut marcher longtemps sans arriver. On peut être appelé et pas élu. Mes frères et sœurs, ce message, il faut le dire. On peut commencer et mal finir. Mais lorsque cette mort est acceptée, une vie nouvelle peut naître. Il y a l'espérance et l'espoir. Il y a la promesse. Une vie libre, paisible, féconde, animée par l'Esprit de Dieu. Et c'est celle-là que le Seigneur cherche. C'est ce chemin-là que nous devons suivre. La Bible montre qu'il est possible d'être croyant, comme les disciples, de marcher avec Jésus-Christ, d'écouter ses paroles, de voir ses œuvres, sans jamais atteindre Jérusalem intérieurement. On peut suivre Jésus tout en restant gouverné par l'ego, la comparaison, les querelles et le besoin d'être reconnu. Dans ce cas, la vie reste conduite selon la chair et non selon l'esprit. Cette foi, bien que sincère en apparence, demeure pauvre, sans vraie liberté, sans paix profonde et sans fruit durable. Alors on dira, peut-être demain, ça ira mieux. Ben, continuons ainsi. Le vrai danger n'est donc pas de ne pas être appelé. C'est pas le vrai danger. Le vrai danger n'est donc pas de ne pas être appelé, mais de ne jamais aller jusqu'au bout. Jésus rappelle que beaucoup sont appelés et peu empruntent le chemin étroit qui mène à la vie. On peut ainsi passer toute une vie entre la Galilée et Jérusalem, sans jamais consentir à la croix. Or, la marche chrétienne a une finalité claire. La véritable nouvelle naissance, une vie transformée, sanctifiée et conduite par l'Esprit. Sans ce passage, la finalité peut être dramatique, mes frères et sœurs. Elle peut être dramatique au point d'entendre le Seigneur le dire lui-même, « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Matthieu 7, verset 23. À qui il a dit cela? Il l'a dit à des croyants qui ont dit même qu'il faisait des miracles en son nom. Il leur dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous êtes arrêtés avant Jérusalem. Toute transformation commence par une prise de conscience. Et c'est ça qui est beau dans la parole de Dieu. Toute transformation commence par une prise de conscience donnée par l'Esprit de Dieu. Cette prise de conscience, c'est le début de tout. Cette prise de conscience nous conduit à quoi? À la prière, à la repentance sincère, à la confession et à un réel changement de direction. Peu à peu, l'Esprit nous fait entrer dans la nouvelle naissance. Une vie centrée sur Christ, où les fruits de l'Esprit deviennent visibles et où le péché perd son pouvoir. Cette vie transformée devient alors, un témoignage vivant autour de nous. Et n'auront même pas besoin d'ouvrir la bouche, tellement ça se verra autour de nous, une transformation. Les fruits apparaîtront autour de nous sans qu'on fabrique une méthodologie d'évangélisation. Cette vie transformée devient alors un témoignage vivant que Dieu peut utiliser lui et lui seul selon sa volonté. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous à travers ce passage et à travers l'épreuve que j'ai vécue à travers le décès de mon père et cette photo que j'ai reçue. Que le Seigneur nous aide. Amen.